Et il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
C'est vrai que d'ordinaire, les sommets européens passent assez inaperçus, hein, pardon, mais qu'est-ce qu'on retient vraiment, ce qu'il en sort, sincèrement? Cette fois-ci, le sommet de Versailles qui commence demain est sans doute le plus important que l'Europe moderne, j'allais dire, ait vécu. Notre Europe à 27, il était prévu de longue date, évidemment. Son agenda est bouleversé. On y parlera indépendance énergétique, on y parlera défense, on y parlera adhésion de certains voisins. Mais de tout cela, on parlera par le prisme de la guerre en Ukraine qui a déjà bouleversé tant de choses. Voilà que notre indépendance énergétique devient une urgence, voilà que la défense européenne, ce serpent de mer inextricable, est peut-être en train de prendre forme, voilà que l'Europe devient quelque chose de plus tangible, mais voilà aussi qu'une vraie question morale se pose à nous. Peut-on intervenir plus et mieux pour aider l'Ukraine, ou sommes-nous en train de regarder mourir à nos portes des femmes et des hommes parce que notre intervention signifierait plus encore une vraie guerre mondiale? Cette guerre nous fait réfléchir à ce que nous sommes, nous, Européens, à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour notre confort, comme l'a dit assez vertement il y a deux jours l'un des proches du président Zelensky. C'est de tout cela dont on va discuter ensemble ce soir avec vous. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Jerry, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir à tous. Ben, j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'Europe, on ne peut plus que y croire, parce que les gens, ils vont en avoir de plus en plus besoin, mais ils vont en avoir envie. Parce que ce n'est plus un concept, l'Europe, de politiciens qui n'ont pas de mandat en France et qui veulent se trouver une vocation au niveau européen. Ce n'est plus un fantasme, une obsession de personnes âgées traumatisées par la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est simplement quelque chose de bien concret. Moi, je vis entouré de cimetières militaires, mais là, le problème que vous avez en Europe, c'est, et écoutez bien vos compatriotes européens italiens, c'est que vous avez une mafia qui s'est substituée à un État et qui détient des armes, un gros territoire, et qui a le monopole des communications. Mmh. C'est sans précédent.
Vous nous parlez de la Russie, là, c'est ça? J'ai pas bien compris, Jerry, pardonnez-moi.
Ah, non. Moi, je suis dans les Hauts-de-France, mais je
oui,
viens
j'ai bien compris.
De
oui, j'ai compris que
cimetières
vous...
militaires.
Oui, oui.
Et l'Europe, c'est pas un truc qui doit se bâtir seulement sur le traumatisme des personnes âgées traumatisées par les premières, deuxième guerre mondiale, de par leur famille. C'est quelque chose qui est un besoin qui est concret. Il faut que les gens, ils mutualisent non seulement
oui,
des matières premières...
Ça, j'ai bien compris. En fait, c'était la fin de votre question que je comprenais pas bien, mais j'entends bien ce que vous nous disiez sur la manière dont l'Europe aujourd'hui, on va dire, se matérialise peut-être différemment aux yeux de nous tous, les Européens. Merci beaucoup à vous, Jerry, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Je vais vous présenter tous les gens qui sont autour de la table. Léo Klim est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant pour le magazine allemand Der Spiegel à Paris. Paolo Lévy est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondant de l'agence ANSA à Paris, vous êtes dans un aéroport, ça s'entend derrière vous, n'essayez de pas décoller tout de suite. Angélique Boin, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Correspondante permanente de Radio France à Bruxelles, et puis Jean-Marc Four est là également.
Bonsoir à tous.
Information internationale de Radio France. Ben, c'est vers vous, Angélique, que je vais me tourner d'abord. Est-ce qu'on a le sentiment, y compris à Bruxelles, qu'il y a eu un tournant, qu'il s'est passé quelque chose et que notre perception à tous, finalement, de l'Europe est en train de changer à la faveur, c'est compliqué de dire ce mot comme ça, à l'occasion de cette crise?
Oui, c'est un peu tragique à dire, mais effectivement, il y a quand même ce sentiment à Bruxelles que tout d'un coup, cette Europe a accéléré très fortement dans le domaine, évidemment, de la défense, dans ce besoin d'autonomie, dans cette capacité, finalement, à se mobiliser aussi pour accueillir des réfugiés. Hein, 2 millions aujourd'hui, c'est quasiment deux fois plus qu'en 2015, sans se poser de questions pour les accueillir. Tout ça, c'est extrêmement nouveau, extrêmement fort, dans une unité extraordinaire, mais je dirais quand même que ça s'appuie sur un cheminement. On l'a vu dans le Covid, on parle d'un sommet historique, mais c'est vrai. N'oublions pas celui qui a permis l'endettement commun pour faire face à cette crise terrible. N'oublions pas le Brexit qui a été le début de ça, cette espèce de logique de « on doit être plus fort ensemble ».
Et j'ai envie de dire, Jean-Marc Four, j'ai vu que vous leviez la main, mais avant de dire ce que vous vouliez dire, en écoutant Angélique, je me dis que effectivement, ce qui s'est passé avec le Covid, au fond, et cette manière de mutualiser beaucoup de choses, notamment cet énorme plan de relance, on se dit qu'on est effectivement dans cette continuité, parce qu'après
oui,
tout,
absolument, on est dans une continuité. Je pense absolument ça. C'est-à-dire que on a à la fois un événement majeur qui est sans précédent, mais en même temps, on est au niveau de la construction européenne dans la même séquence que ce qui vient de précéder avec le Covid.
C'est-à-dire qu'on a mis le pied dans la porte,
oui,
effectivement.
Absolument, sur une forme de mutualisation et de prise de conscience de la nécessité de l'autonomie sur le fait de fabriquer des médicaments, de fabriquer des vaccins chez nous, et aussi d'être indépendant sur les questions énergétiques. Et c'est finalement, d'une certaine manière, la même séquence. Mais ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Angélique Bois à l'instant, c'est que ce sentiment d'envie européenne, pour reprendre la formule de Giry, je pense qu'elle est bonne, cette envie d'Europe que peuvent avoir désormais davantage les citoyens européens, elle ne fait qu'accroître la responsabilité des institutions européennes et des instances européennes. Elle ne fait qu'accroître cette responsabilité, parce que vraiment, il faut répondre maintenant à cette envie, être en capacité de bâtir cette forme de puissance.
Léo Klim, il y a eu des choses qui sont presque contre nature en 15 jours seulement, en fait, dans cette Europe-là, et c'est le cas chez vous, en Allemagne, avec ces 100 milliards débloqués autour de la défense subitement. Moi, je voudrais savoir comment c'est perçu en Allemagne. Est-ce qu'on est dans le même élan et donc on comprend ça, ou est-ce qu'on a quand même le sentiment qu'on est toujours dans quelque chose qui est très contre nature.
Alors, oui, c'est sûrement contre nature, parce que l'Allemagne de l'après Deuxième Guerre mondiale a bâti aussi son identité politique sur une forme de pacifisme. En tout cas, on n'avait pas à gérer nous-mêmes la défense. Et puis après la fin de la guerre froide, on a pu continuer à s'installer dans cette position assez confortable d'être une puissance économique sans devoir être une puissance politique, en tout cas une puissance militaire. Et donc là maintenant, cette invasion de l'Ukraine qui se passe pas directement aux portes de l'Allemagne, mais quand même qui est très proche.
Pas loin, oui.
Comparé, par exemple, à ce qui s'est passé en Géorgie en 2008, ça semble beaucoup plus proche. Donc ça fait un choc. Ça fait prendre conscience que la politique en Allemagne, on a aussi eu, depuis longtemps, et pour de bonnes raisons d'ailleurs, je voudrais soutenir, depuis les années 70, une politique qui était de s'arranger un peu avec la Russie.
Mmh.
Et donc maintenant, on se rend compte
Certains ont même dit de naïveté, pour ce qui vous concerne.
Pardon ?
On a même entendu parler de naïveté de la position allemande vis-à-vis de la Russie pendant longtemps.
Oui, oui, sûrement. Sûrement que il y a une naïveté collective et une naïveté des gouvernements, et qui s'est prolongée jusque dans des mandats, comme vous savez, l'ancien chancelier Gerhard Schröder a des fonctions toujours à ce jour pour acheminer du gaz russe.
Il est même l'un des seuls, est-ce que je me trompe, à les avoir conservées,
voilà,
ses fonctions.
Il refuse d'abandonner ses fonctions. Donc ce changement de pied est quand même très compliqué, mais il a été opéré par d'ailleurs un proche, ancien proche de Schröder, qui est le nouveau chancelier Olaf Scholz, assez rapidement, en l'espace de quelques semaines.
Je voudrais me tourner vers Paolo Lévy, correspondant de l'agence ANSA, donc chez les Italiens. On va parler évidemment d'énergie pendant ce sommet, on va en parler beaucoup, et c'est vrai que nous sommes tous inégaux en fait devant les problèmes énergétiques liés au gaz ou au pétrole russe. Vous, par exemple, italien, vous êtes dépendant, peut-être un peu moins que l'Allemagne qui l'est aussi énormément, la République tchèque l'est beaucoup. Nous le sommes, nous, à une moindre mesure. Et là aussi, est-ce que vous avez le sentiment chez vous en Italie, Paolo, qu'il y a une forme de changement de pied ? Donc oui, ça va être compliqué, mais les sacrifices, nous les ferons. Ou est-ce qu'on se dit que le point d'achoppement, précisément, là où la belle union de l'Europe en ce moment peut se craqueler, c'est précisément là-dessus, parce que ça veut dire sacrifice pour les populations ?
Absolument pas, on est tous inégaux. C'est vrai d'un côté parce que l'Italie et l'Allemagne dépendent beaucoup plus du gaz russe par rapport à la France, mais aujourd'hui on est tous unis sur une priorité qui dépasse tout cela, qui dépasse les questions économiques, c'est-à-dire la défense de nos valeurs communes européennes. Et donc quand il y a un risque de délitement total de l'Europe, je pense que les questions liées au gaz, au pétrole, doivent passer au deuxième plan, parce qu'aujourd'hui on est face à un risque existentiel pour notre Union, et donc soit on passe à une vitesse supérieure et on rentre vraiment dans l'ordre d'idée qu'on doit être tous unis, parce que unis on fait la force, soit on risque d'exploser et ensuite d'avoir juste à choisir si devenir des satellites de la Russie, de la Chine, des États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est un moment charnière pour l'histoire européenne. Je pense que depuis 2 ans, on est en train de vivre ce qui était impensable jusqu'à il y a quelques années, avec un plan de relance, celui adopté en juillet 2020, moi je cesserai jamais, parce qu'on n'a pas encore le recul historique, mais il y a quelque chose, ce 20 juillet 2020, qui est passé, qui finira dans les livres d'histoire. C'est-à-dire que pour la première fois, on a introduit en Europe une forme de mutualisation de la dette qui est le synonyme tout simplement d'une nouvelle forme de fraternité européenne. Et c'est vraiment un tabou qui s'est effondré. Et aujourd'hui, cette autre épreuve avec la guerre et la défense commune qui est devenue aujourd'hui une priorité absolue. Tout cela arrive dans un contexte historique où il y a eu, après des années de blocage, la Grande-Bretagne qui a quitté notre Union. Et aujourd'hui, les valeurs et le message de nos pères fondateurs qui ont bâti ce magnifique projet après le désastre, la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, devient plus que jamais d'actualité. Et c'est un message d'une Europe qui ne doit pas être seulement un supermarché comme on l'a fait jusqu'ici, mais l'affirmation d'une vraie Europe politique, solidaire, unie pour faire face aux défis de l'avenir. Je dois dire que en ça, Emmanuel Macron, il avait tout vu avant l'heure, parce que moi, j'étais à la Sorbonne lors de son discours.
J'allais dire, il y avait un certain nombre de choses, Paolo, dans le discours de la Sorbonne, effectivement.
Je me souviens très bien de ce président tout jeune qui disait, moi, je venais de rentrer à la Sorbonne, dehors, il y avait un petit orchestre en face d'une brasserie qui chantait La vie en rose, tout était magnifique.
Ah ouais.
Et ce président, il a sorti une phrase, il a dit, le sens du tragique qui revient dans notre histoire. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a ? J'avais rien pigé. Et en fait, il avait vu venir ce tragique avant les autres.
En tout cas, là, on est effectivement, Paolo, pardon de vous interrompre, on est là, effectivement, dans ce tragique. Un mot, Angélique Bois ?
Oui, il faut quand même avoir en tête que le soir du sommet, le jour de l'invasion russe, les Européens se réunissent pour discuter et débattre. On s'attend à ce qu'ils débattent toute la nuit du plus vaste paquet de sanctions jamais préparées par la Commission. Il faut savoir que ça se passe en moins d'une heure. Ils font un tour, ils décident de pas changer une virgule. Ça ne s'est jamais vu. Il y a des applaudissements. Et après, ils disent, bon, maintenant, l'étape d'après, c'est de trouver d'autres idées pour taper fort la Russie. Ça, c'est absolument inédit. Depuis 3 ans et demi que je suis ces sommets, j'ai jamais vu ces choses-là. À 10h, on nous publie les conclusions du Conseil avec des sanctions massives.
Jean-Marc, rapidement.
La rapidité et l'unanimité, qui étaient les deux points dont on disait l'Europe, franchement, la rapidité et l'unanimité, ouarf. Ben, en l'occurrence, rapidité, unanimité.
Sauf que, Léo Klim, est-ce qu'on n'est pas obligé aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aller encore même plus loin dans les sanctions, parce que sinon, effectivement, on a l'impression que, au fond, c'est Vladimir Poutine qui a la main, puisqu'il il joue sur notre faiblesse, et si notre faiblesse, c'est de ne pas oser couper le pétrole et le gaz, ça voudra dire sommet raté, et ça voudra dire que, là-dessus, Poutine a gagné.
Alors, effectivement, la réaction a jusqu'ici été unanime des Européens. Maintenant, on arrive peut-être au stade où les choses vont devenir plus compliquées. À cause des questions énergétiques qui, non seulement l'Allemagne est beaucoup plus dépendante au gaz russe que la France, mais il y a des pays plus à l'est encore. Plus vous avancez à l'est, plus les pays, par exemple les pays baltes, sont dépendants du gaz russe, mais en même temps, plus ils se méfient aussi de la Russie et ont un besoin de protection de défense.
Ils ont raison de se méfier de leur géographie, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc sur les deux questions, énergétique et défense, vous n'avez pas toujours le même point de vue. Et d'ailleurs sur la question d'un plan de relance pour l'économie qui est déjà effectivement évoqué sur le plan qu'on a eu pour le Covid.
La même chose, mutualiser aussi.
Avec une mutualisation de dette. Alors là, la présidence française est assez prudente là-dessus. Ils veulent en discuter, mais ils savent très bien que ça va se heurter à des résistances. Marc Rutte, qui était à Paris aujourd'hui, l'a déjà dit assez clairement. Donc, on va maintenant aborder les sujets, on va dire, plus compliqués, où peut-être des clivages traditionnels vont ressortir plus clairement.
Et où cette belle union, effectivement, va être un peu plus mise à l'épreuve, on va dire qu'elle ne l'est jusqu'à
concernant présent. L'énergie, on va avoir un débat, d'ailleurs, sur les deux sujets, que ce soit la mutualisation de dette et l'énergie, on va avoir un débat intra-allemand aussi, qui va être très intéressant et qui va déterminer ensuite la position allemande.
Je voudrais qu'on rejoigne Anne-Françoise Hivert qui est avec nous. Bonsoir Anne-Françoise.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante du Monde pour les pays scandinaves. Et justement, parce qu'on parlait de révolution culturelle dans un certain nombre de pays, et notamment d'Europe de la Défense, comme l'évoquait Léo Klim à l'instant, on parle beaucoup des tournants à 360 de certains pays, et c'est le cas autour de vous, c'est le cas de la Suède, c'est le cas de la Finlande, qui sont en train de briser des tabous. La Suède d'abord avec l'envoi de lance-roquettes, etc. La Finlande, dont on sait qu'elle est non alignée, mais qui envoie également de pays qui sont par ailleurs, qui ne sont pas membres de l'OTAN, pardon, mais qui tapent à la porte pour y rentrer. Est-ce qu'on dit là aussi qu'on est dans une forme de révolution culturelle ?
Oui, quelque chose est en train de se passer. Je parlais avec une diplomate suédoise qui parlait d'un tremblement de terre pour la politique de sécurité suédoise, ce qui s'est passé ces derniers jours. On le voit. Alors attention, il ne tape pas encore à la porte, mais effectivement, il y a un débat qui s'ouvre, notamment en Finlande. C'est assez clair en Finlande. La Suède est en train de prendre une position un peu différente là depuis hier, qui surprend d'ailleurs les Finlandais, parce qu'on avait toujours pensé que les deux pays, s'ils déposaient leur candidature
le faire ensemble.
À l'OTAN, le feraient ensemble. Ouais.
Et ne le feront pas ensemble, finalement, ne le feraient pas ensemble, vous voulez dire? Parce que moi, ce que j'ai vu et qui m'a très étonné aussi vis-à-vis de la Finlande, c'est ce pourcentage de Finlandais qui désormais disent oui, d'accord pour l'OTAN, ce qui a jamais été aussi haut. Est-ce qu'il a déjà été aussi haut?
Non, il a jamais été aussi haut, effectivement. Donc, il y a eu un sondage la semaine dernière qui a été réalisé, en fait, les 23, 24, 25 février. Et pour la première fois, une majorité des Finlandais disent qu'ils sont favorables à l'adhésion à l'OTAN. C'était 53%. Juste à titre de comparaison, un sondage équivalent avait été fait en janvier, où il y avait déjà des débats quand même, hein, parce que l'ultimatum russe, oui, il portait sur l'Ukraine, mais les Finlandais et les Suédois se sont sentis concernés aussi, puisqu'il n'était plus question d'adhésion de pays européens à l'OTAN. En janvier, ce sondage en Finlande, c'était 28% des Finlandais qui étaient favorables à l'adhésion. Donc on est passé de 28% à 53%. C'est juste quelques sondages, mais en parlant avec des chercheurs finlandais, tous disent que si on faisait un nouveau sondage aujourd'hui, probablement on serait au-delà de 60%. Donc il y a vraiment un changement qu'on voit aussi en Suède, mais plus prudent. Pour la première fois en Suède, il y a plus donc de Suédois qui sont favorables à l'adhésion que de Suédois qui s'y opposent. Mais on n'est pas encore à une majorité, on s'en approche.
Enfin, rappelez que la Finlande a une frontière qui fait 1300 km avec la Russie, donc on comprend aussi pourquoi...
Saint-Pétersbourg, c'est tout près des Helsinki.
Voilà, pourquoi dans ces temps-là, effectivement, les choses changent. Un mot sur le Danemark, Anne-Françoise, qui va voter, lui, pour rejoindre la sécurité de défense commune. Là aussi, on est moins dans la révolution culturelle, mais ça dit quand même quelque chose également du Danemark.
Oui, et on peut quand même parler de révolution culturelle, parce que ces dérogations, ces opt-out que le Danemark a négocié, donc qui portent notamment sur la politique européenne de défense et de sécurité, les Danois, ils sont extrêmement attachés. C'est un pays eurosceptique, c'est une population eurosceptique, et d'ailleurs le dernier référendum pour supprimer une de ces dérogations, il a eu lieu en 2015. Il devait permettre au Danemark de continuer à collaborer dans Europol avec les autres pays européens. Quasiment tous les partis politiques, à l'exception de l'extrême droite, défendaient l'arrêt de la dérogation danoise, de rejoindre la collaboration européenne, et c'est le nom qui l'a emporté. Donc on n'est pas du tout... C'est quand même un risque politique assez fort pour Mette Frederiksen, la première ministre, donc social-démocrate, qui pourtant, en plus, avait dit qu'elle ne changerait rien sur ces questions pendant son mandat. On ne sait vraiment pas quelle peut être l'issue de ce référendum qui sera organisé le 1er juin.
Et qu'on attendra avec impatience. Et ce sentiment pro-européen, effectivement, c'est intéressant, qui est en train de gagner du terrain. Je voudrais qu'on écoute Lorenzo, qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir France Inter, bonsoir à tous.
Allez-y, Lorenzo.
Donc, oui, ma question est évidemment liée à rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il y a un tel élan de solidarité dans les populations européennes et aussi dans les dirigeants de l'Europe. Je me demande qu'est-ce qui empêcherait techniquement et juridiquement de passer outre quelques formalités. Je sais que les adhésions demandent plusieurs années souvent de préparation, mais en urgence, ne pourrait-on pas intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne avec quelques précautions éventuellement, mais que ça soit intégré dans l'Union européenne, ce qui éviterait évidemment de le camoufler, de l'intégrer dans l'OTAN, parce que là, ça serait un casus belli absolu, mais de l'intégrer dans l'Union européenne en urgence, comme on a failli faire dans la guerre entre 39-40, où on a failli s'unir avec l'Angleterre pour éviter l'armistice et pour prolonger la guerre. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais ça avait été envisagé.
C'était pas tout à fait la même configuration, mais je vois bien où vous nous emmenez, Lorenzo. C'est à vous que je vais demander, Angélique Bouin. Est-ce qu'on peut accélérer une procédure?
Écoutez, faut être clair, hein, avant.
Ce qu'il faut rappeler, pardon, COVID, je vous coupe, c'est que Ukraine, Slovaquie, Géorgie ont demandé la même chose au même moment.
Oui, alors on peut tout à fait, et d'ailleurs les Européens pendant ce sommet vont envoyer un message en disant que c'est effectivement des pays qui ont vocation à être membres de la famille, mais adhérer rapidement, il faut quand même avoir en tête qu'il faut une certaine convergence. Avant toutes ces crises, avant le Covid, on reprochait à cette union de déjà pas bien fonctionner à 27, que les intégrations 2004 avaient été rapides. Donc intégrer rapidement l'Ukraine, il faut avoir en tête que ce pays n'est pas prêt pour rejoindre le marché unique. Hein. Je vais te donner un seul exemple qui n'est pas inintéressant. Demain, on intègre le marché unique. Nos entreprises européennes, elles vont se jeter là-bas, elles vont tuer toutes leurs économies. C'est même pas dans leur intérêt de le faire comme ça. Leurs élites qui vont être payés 10 fois plus vont tout de suite passer chez nous. Enfin, il y a un processus. Ce pays n'est pas prêt dans la lutte contre la corruption. Mmh. Je veux dire, c'est un pays, on en parlait avant cette crise, qui est profondément corrompu. Le système judiciaire n'est pas au point. C'est-à-dire qu'on aurait très vite les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la Hongrie et la Pologne pour faire court. Donc, ce processus, il est lent. C'est normal, ça met du temps. Par contre, envoyer un signal pour leur dire on peut se rapprocher, et notamment les pistes qui sont sur la table du Conseil, c'est dire, bah, par exemple, on va vous intégrer dans certaines décisions communes. On a des pays qui sont pas dans l'Union européenne avec qui on a une économie très intégrée. Tout ça, ça peut se faire, mais aller trop vite, c'est dangereux pour tout le monde, en fait.
Jean-Marc, rapidement.
Je pense que je vais être un épouvantable triste sire. Mm. Je pense que c'est une mauvaise idée. Pour outre les raisons qu'a développé Angélique.
Déjà en train de recevoir du courrier, je vous le dis.
Non, mais je vous explique pourquoi. C'est d'abord, de façon générale, je pense qu'il faut se méfier des émotions. C'est-à-dire qu'il y a un élan d'émotion absolument formidable pour l'Ukraine, et tant mieux. Mm. Mais il faut toujours, en diplomatie et en géopolitique, se méfier des émotions et de prendre de façon précipitée des décisions que vous pourriez regretter après. En l'occurrence, et c'est l'autre raison, quel message enverriez-vous dans ce cas de figure aux pays qui sont officiellement candidats pour l'Union européenne et qui ont tout un processus qu'ils respectent et qui font des efforts pour certains considérables, je pense à certains pays des Balkans, l'Albanie, la Macédoine du Nord, ceux qui sont, et encore là je ne parle que pour l'Albanie, que de pays qui ne sont que potentiellement candidats, alors qu'il y en a qui sont déjà formellement candidats. La Turquie par exemple, quel message envoie-t-on à la Turquie? Attention, on pourrait le regretter plus tard. Donc, pardon d'être froid, d'être cartésien, mais je pense qu'il faut l'être aussi sur ces dossiers-là, même si l'émotion est légitime et que par bien des aspects, elle a des avantages et elle porte quelque chose de formidable vis-à-vis de l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire?
Absolument. Et je voudrais, en parlant d'émotion, justement, me retourner vers Paolo Levi, à nouveau le correspondant de l'agence ANSA à Paris, donc côté italien. Moi, j'aimerais savoir ce que vous dites de l'accueil des réfugiés chez vous en Italie, qui avait évidemment eu cette problématique, mais vis-à-vis d'autres réfugiés. Et on sent bien ici aussi, chez nous également, monter les polémiques sur le deux poids, deux mesures de réfugiés ukrainiens et des autres. Qu'est-ce qu'on dit en Italie là-dessus ?
Qu'est-ce qu'on dit ? Il y a une empathie et une solidarité très très forte par rapport aux réfugiés italiennes, même italiens et ukrainiens en Italie, même parce que l'Italie, avant même cette guerre, est un des pays d'Europe occidentale, en tout cas, qui a dans son sol, au sein de son sol, le nombre le plus élevé d'Ukrainiens qui ont choisi l'Italie pour venir vivre et travailler. Donc, il y a vraiment des réseaux italo-ukrainiens très très forts qui durent depuis déjà de nombreuses années, et donc l'accueil est bien sûr aujourd'hui la priorité. Il doit être la priorité pour l'Italie comme tous les pays du reste de l'Europe. Certainement ça fait froid au dos quand on voit certaines chroniques qui nous racontent d'une forme de discrimination entre réfugiés blancs et réfugiés avec d'autres couleurs de peau.
Pour ce qui
concerne je me permets l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, j'ai beaucoup suivi quand j'étais en poste à Bruxelles, le dossier élargissement. Alors, donner une sorte de voie préférentielle à n'importe quel pays serait équivaudrait plus ou moins à donner le volant d'une voiture à quelqu'un sans permis de conduire. C'est très, très réglementé. Chaque pays, pour adhérer à l'Union européenne, doit répondre à négocier 35 chapitres négociaux sur tous les thèmes les plus divers, de l'état de droit à la corruption, à la graine même du goudron d'une autoroute. route, donc c'est très précis, on ne rentre pas en Europe comme ça d'un jour à l'autre, c'est impossible. Ceci dit, faire un geste en reconnaissant à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union serait un symbole très très important pour dire à ce pays qu'il n'est pas seul face à l'envahisseur russe.
Merci Paolo. Une question pour vous, Léo Klim, c'est celle de Michel qui est en Allemagne. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir, mais je suis à Paris.
Ah bah je croyais que vous étiez en Allemagne, je le vois marqué, mais c'est pas grave, je vous en prie, allez-y.
Bon, moi je suis âgé, j'ai 80 ans, j'ai tâché d'être bref, merci de prendre ma question. On a construit une Europe économique en repoussant toujours le problème politique. Regardez l'Allemagne qui arrête il y a 20 ans le nucléaire et se marie pour son avenir avec la Russie, qui n'a jamais été un modèle de démocratie. Comment va-t-on s'en sortir? Est-ce qu'on va enfin faire une Europe politique? Mais si on le fait, c'est-à-dire qu'au-delà de l'émotion d'aujourd'hui, qui est bien compréhensible, est-ce que les gens savent qu'on va tous payer, ce qui est normal. En particulier, nous paierons pour l'Allemagne et l'Italie qui sont très très liés au gaz russe. Il faut l'accepter si l'on veut que l'Europe existe. Et si l'Europe politique n'existe pas, moi je suis persuadé que chaque pays d'Europe, y compris l'Allemagne, dans 20 ou 30 ans, nous serons les sous-traitants des pays dominants. Voilà ma question.
Qu'est-ce que vous en dites, Léo Klim, de cette question de Michel? Moi, je trouve ça intéressant, cette ironie qu'il semble instituer et qui dit que, à un moment, l'Allemagne nous devra. J'ai l'impression de revenir des années en arrière quand l'Allemagne disait la même chose au sujet d'autres pays qui étaient plus en difficulté. Oui. C'est quoi votre avis?
Je sais pas. Je pense que l'Allemagne va surtout payer pour elle-même. Elle a des intérêts économiques bien plus importants que la France avec la Russie et l'Ukraine. Elle a plus à perdre. Et évidemment, si elle arrête le gaz russe aujourd'hui, ça a déjà été chiffré, on va perdre entre 0,5 et 3 points de PIB. Et donc c'est considérable, mais ça peut se faire. Et ça, c'était un débat qui a lieu en Allemagne, je pense, que l'Allemagne va surtout payer pour elle-même. Ce qui est très intéressant dans ce que vous soulevez, Michel, c'est que c'est la question du nucléaire. Mm-hmm. C'est qu'au bout de quelques jours, le gouvernement allemand a écarté la question de prolonger les 3 réacteurs qui sont encore en fonctionnement en Allemagne. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas réduire le gaz russe en prolongeant ces réacteurs. On va donc maintenir la fermeture de ces réacteurs à la fin de cette année 2022.
Mais on brûlera du charbon, j'imagine.
Et alors, la solution de substitution pour le gaz russe, c'est en fait du charbon qui viendra d'autre part. C'est d'autres énergies fossiles. Ça c'est clair. En même temps, l'Allemagne est quand même bien plus avancée sur les renouvelables que la France, notamment.
C'est vrai. Angélique, en Belgique, c'est l'inverse. On essaie en ce moment de voir si on peut pas relancer nos centrales nucléaires, parce qu'effectivement, on se pose évidemment des questions pour la suite. Et en même temps, on a eu le sentiment les uns les autres que le nucléaire était peut-être la solution. Puis quand on voit ce qui se passe avec les centrales en Ukraine, on a bien compris aussi, et c'est ce qui se dit clairement dans les ambassades à Bruxelles, que la vraie voie, ça va être le renouvelable, l'hydrogène et tout le reste, et puis essayer de se débarrasser des hydrocarbures et puis de faire attention quand même au nucléaire.
Du coup, Jean-Marc, est-ce qu'on se dit que cette crise, elle fait avancer l'Europe verte, les pactes verts, etc. Est-ce qu'elle les fait reculer? Est-ce qu'elle les laisse à peu près où ils sont?
Mécaniquement, elle doit faire avancer. C'est une évidence. Même si la France, elle, va plaider davantage pour le réessor du nucléaire, mais il est évident que ça va faire avancer les énergies renouvelables. C'est, à mon avis, absolument mécanique. Mais juste pour en revenir très brièvement à la question de Michel, parce qu'elle est quand même centrale. Il nous dit, et il a raison, l'Union européenne a d'abord été une union économique et pas tellement une union politique. Et maintenant, l'enjeu, c'est que, en fait, il faut passer au stade supérieur. Il a raison, mais ça ne se décrète pas. Et c'est pour ça qu'il faut y aller avec beaucoup d'intelligence, parce qu'on voit bien aussi que presque partout en Europe, il y a aussi ce sentiment légitime d'envie de souveraineté, d'identité nationale qui existe aussi. C'est un fait. Il n'y a pas de commentaire dans ce que je dis. Et donc, il faut aussi respecter cette dimension-là, parce que sinon, vous n'arriverez pas à bâtir une Europe politique.
Mmh. Laissez-moi juste en deux mots
plaider
un tout petit peu la cause de mon pays, de l'Allemagne, parce qu'il faut voir que elle a brisé des tabous en série là depuis plusieurs années sur l'endettement commun, déjà pour le Covid, et maintenant le budget défense qui est beaucoup augmenté. Donc l'Allemagne parfois met longtemps, il y a une grande inercie, puis après elle bouge tout d'un coup.
Parce qu'elle est en réaction, en fait. C'est intéressant. Je trouve ça intéressant au moment du nucléaire, par exemple.
exemple, c'est après Fukushima. Donc c'est une réaction post-Fukushima. L'accueil des immigrés, par exemple, des Syriens, pareil, c'est une réaction immédiate. Ça se fait pas. C'est pas une politique, c'est une réaction. Et on se dit que sur le militaire, c'est pareil en fait.
C'est bizarre. Hein, c'est ouais. Un peu sur l'affect.
Exactement.
On dirait que ça ressemble pas à comment on décrit les Allemands, mais finalement, la politique se fait beaucoup par affect sur les très grandes décisions en Allemagne. Et bon, ça peut. C'est pas toujours une bonne chose, évidemment.
Richard Place, bonsoir.
Bonsoir.
Vous savez pourquoi on a eu envie de vous appeler, Richard, qui est le correspondant à Londres? C'est parce qu'il y a une question pour vous, et elle vient d'Albi, c'est celle d'Alain, et qui nous dit « Quelle est la position de l'Angleterre là-dedans selon le point de vue de l'Europe? Est-ce qu'on l'inclut dans les négociations ou est-ce qu'on ne l'inclut pas du tout? Est-ce qu'on parle toujours dans ces moments-là et tout le temps de l'Europe à 27 ou est-ce que des fois, il y a un petit plus 1 qui se remet en route ici et là ?» Jean-Marc, non, Richard.
Ici, il est certainement pas question d'un plus un. Il est certainement pas question de revenir dans l'Europe. Le Royaume-Uni trace sa route seul. Le Brexit, il est acquis. Il est fait désormais dans la population. Il n'y a même plus de débat autour de ça. Et cette crise ne le rouvre pas. Et puis, ce qu'on pourrait percevoir comme de la solitude ici sur cette
île. J'allais vous demander, est-ce que vous sentez tout seul dans votre île?
Alors. Bah pour la population, il n'y a pas ce sentiment de solitude, et pour le gouvernement, voire pour Boris Johnson, ça va même plus loin. C'est la souveraineté, c'est pas de la solitude. Donc on prend nos décisions nous-mêmes et on fait venir, par exemple, Justin Trudeau et Mark Rutte lundi, Volodymyr Zelensky qui intervient en pleine chambre des communes hier soir pour un discours où il invoque Churchill, il cite Shakespeare, et on voyait bien que pour
malin,
Boris Johnson,
Zelensky.
C'était un grand moment. Il est décidément très malin, ce Zelensky, et Boris Johnson, lui, dans ce moment-là, il est ravi parce qu'il est au centre du jeu, en tout cas il en donne l'impression à sa population, et depuis le début de ce conflit, il faut bien le dire, avant même l'invasion russe, Boris Johnson était très actif sur ce front-là, il s'est rendu en Ukraine, il a rencontré Zelensky à Kiev, aussi pour faire oublier des problèmes de politique intérieure, mais il a été très actif depuis le début, donc il est complètement impliqué.
Est-ce que y a un point sur lequel, en revanche, l'Angleterre ne bouge pas pour l'instant? C'est celui des réfugiés. Il y a combien? 300 réfugiés ukrainiens, je crois, qui sont passés par les frontières de la Grande-Bretagne. Voilà. Et Boris Johnson, là-dessus, qui reste campé sur ses positions, pas plus, et surtout pas de grandes portes ouvertes comme le font tous les autres pays européens, ou en tout cas promettent de le faire.
Certainement pas, il l'a dit et répété, il a bien expliqué qu'il était hors de question de laisser venir tout le monde, parce que ici il y a encore le spectre en 2018 de cette attaque contre Sergueï Skripal et sa fille à Salisbury sur le sol anglais, les Russes qui attaquent littéralement, il y a une Anglaise qui est morte de cet empoisonnement, et à l'époque, même si c'était involontaire, ça a été pris comme un acte de guerre sur le sol anglais, donc Boris Johnson et sa ministre de l'Intérieur agitent ça pour dire attention, parmi les réfugiés qu'on pourrait accueillir, il pourrait y avoir des Russes qui fuiraient également ou qui seraient dangereux, des espions qui seraient envoyés ici. Ils agitent ça. Mais enfin, derrière ça, il y a aussi une énorme inorganisation de la part du Royaume-Uni. On le voit là actuellement entre Calais et Lille, où on ne sait plus s'il y a un bureau pour accueillir les réfugiés ou s'il n'y en a pas, puisque le ministère de l'Intérieur dit « oui, il y a un bureau qui devait ouvrir aujourd'hui à Lille ». Aujourd'hui, Downing Street le dément, ce ministère de l'Intérieur, son propre ministère de l'Intérieur, en disant « non, non, ça ouvrira plus tard ». Dans le week-end, on nous dit « il y a eu 50 réfugiés ukrainiens accueillis sur le sol anglais ». Et dans la foulée, la ministre de l'Intérieur dément ses propres services en disant « non, non, il y en a plus que ça, on va vous donner le chiffre un peu plus tard ». Là-dessus, sur ce sujet précisément, ils sont mauvais.
Merci beaucoup Richard Place. J'ai une petite question pour vous Jean-Marc Four. Alors évidemment que les Anglais ne vont pas le dire en disant quand même « on regrette, c'est peut-être pas le moment, on n'aurait peut-être pas dû partir, en tout cas c'était pas le moment ». Bien sûr, personne ne le dira, mais est-ce que c'est pas quand même, est-ce qu'il n'y a pas de quoi regretter, là, en ce moment, d'avoir quitté l'Union quand on est l'île britannique ou pas?
Vous ferez pas dire à un Britannique que
certes non.
Je pense qu'il y a une autre dimension. Ça va être une façon de répondre à votre question. C'est que nous, ils reviendront pas dans l'Union européenne, pas de sitôt. En revanche, il y a une autre instance, une autre organisation dans laquelle ils ont un rôle majeur et qui a un rôle majeur dans cette crise, c'est l'OTAN. Et là, le Royaume-Uni a un rôle. Oui, très important, depuis le début, hein, depuis la fondation de l'OTAN. Et là, ça nous renvoie à la question de la défense, en fait. Puisque, et en plus, avec un Poutine qui brandit l'arme nucléaire. Je veux dire, qui détient l'arme nucléaire? En Europe, qui? Londres et Paris. Donc, il y a la nécessité, et là, ça ne peut être aujourd'hui que dans le cadre de l'OTAN, d'une coordination, et je pense que c'est le cas, extrêmement fine, entre Paris et Londres sur ces sujets de défense aujourd'hui.
Une question de Jean-Marc, c'est pas vous Jean-Marc, dans l'hypothèse où l'Ukraine tomberait aux mains des Russes, est-ce que toutes les sanctions envers les Russes vont perdurer? Qui veut répondre à ça? J'ai envie de dire, ben oui, sûrement, mais du coup combien de temps?
Est-ce qu'on peut répondre à ça ou pas? Est-ce qu'on sait ça ou est-ce que ça fait typiquement partie de ces choses?
On n'en est pas là du tout. Je crois, en fait, comme on avance chaque jour et que chaque jour, moi j'ai beaucoup de mal à avoir des certitudes sur cette crise puisque parfois on nous demande de réfléchir et de passer des coups de fil à des diplomates sur des sujets qui nous disent clairement ça n'arrivera pas. Par exemple, clairement l'embargo sur le pétrole et le gaz à demain ou après-demain ça n'arrivera pas. Mais moi je mets pas ma main coup de paix parce que on ne sait jamais ce qui se passe dans les nuits des sommets.
Et clairement, les Russes n'attaqueront jamais l'Ukraine et puis les Russes ont envahi l'Ukraine. Léo Klim, là-dessus, on a l'impression qu'on aura tout, on a toujours une espèce de train de retard, non ou pas?
Alors, j'estime qu'effectivement, ce qui me surprend sur les trains de retard qu'on a, c'est que pour l'instant, on ne parle pas du tout encore de la crise et de la pénurie de céréales qui va venir. Donc là, c'est l'énergie, la défense qui domine le sommet de Versailles, mais ça va être un sujet majeur, l'inflation des céréales. Et parce que ça se conjugue, donc on sait que la Russie et l'Ukraine sont des grands pourvoyeurs de céréales. Et en plus de ça...
Qui envoient ceux qui produisent. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si la guerre se perdure, on ne produira plus. Voilà, donc ça va durer longtemps.
Ça va être compliqué. Et en plus de ça, en Europe, on a eu un hiver très sec, notamment en Espagne, au Portugal, mais aussi en France. Donc pour les céréales, ça va être compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui nous attend à encore un autre débat avant la fin des sanctions.
Les 27 ministres de l'Agriculture en ont déjà parlé. Hein, et ce sera quand même évoqué, c'est évidemment pas en tête de chapitre, ça reste une préoccupation tout de même un des 27.
Mais le sujet qui va se poser, c'est la baisse de notre consommation, si je puis dire, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder le sujet toujours sur le mode on va continuer à faire autant, à se chauffer autant, à consommer autant, en trouvant d'autres sources d'approvisionnement.
Ça vient quand même.
Mais l'autre sujet qu'on va voir monter, c'est en fait, est-ce que vous êtes capable de baisser le chauffage d'un degré chez vous, etc.
C'était le thème de notre téléphone sans dire.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça le sujet.
C'est vraiment des questions qui se posent. C'est le thème dont on discute aussi ensemble. On en discute, j'imagine, dans tous les pays. Une toute dernière question, très rapidement, c'est celle de Guillaume. Je pense que l'Union européenne a tout intérêt à rejoindre au plus vite l'embargo états-unien sur les produits pétrolier. Poutine ne peut pas financer 6 mois de conflit sans l'argent de l'Europe.
Ça s'appelle jouer aux enchères et au poker. Voilà. Donc il y a toujours des paris qui sont risqués.
De toute façon, il faudra bien, en sortie de sommet, Angélique, qu'il y ait quelque chose de symbolique qui dise « nous sommes toujours ensemble ». Est-ce que c'est ça
la chose symbolique? Oui, oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un autre sommet dans 2 semaines qui sera aussi très important. Donc finalement, est-ce que tout va se décider dans les 48 heures ou est-ce qu'ils vont quand même, puisqu'on l'a dit, il y a des sujets difficiles qui sont sur la table, est-ce qu'ils vont se donner 15 jours de plus? C'est pas impossible.
Merci beaucoup, merci à tous les quatre. On salue Paolo, aussi notre ami italien. Et merci à tous pour vos très nombreuses questions.